Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.
Heureux de vous retrouver dans le cadre de cet autre numéro de votre émission Economia, espace d'information économique sur Radio de la Paix. Nous nous pencherons avec Faustin Onozon, notre consultant, sur l'économie mondiale, afin de savoir comment elle se porte, cette économie. Ça sera dans le cadre de la rubrique Regard sur l'économie, la deuxième rubrique de cette émission. La dernière rubrique, c'est aussi les tendances de la bourse avec Quaobris. Et nous parlerons de la stratégie de titrisation des créances. Mais avant tout cela, suivons maintenant le lexique économique pour l'explication de certains termes que vous entendrez dans cette émission. Bienvenue à tous.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Les taux directeurs.
Les taux directeurs sont des taux d'intérêt fixés par une banque centrale pour les prêts qu'elle accorde généralement aux banques commerciales qui en ont besoin. Dans le cadre de l'UEMOA, ce sont les taux fixés pour les prêts que la BCAO accorde aux banques commerciales des pays membres.
La politique de relance économique.
Une politique de relance est une politique économique conjoncturelle, donc situationnelle, qui a pour but de relancer l'économie d'un pays ou d'une zone monétaire lorsque ses capacités de production sont sous-utilisées. La finalité est de favoriser la croissance pour lutter contre le chômage.
L'inflation galopante ou hyperinflation.
L'inflation galopante peut s'appeler aussi l'hyperinflation et elle correspond à la situation d'une économie affectée par une inflation extrêmement élevée, échappant donc à tout contrôle. Elle peut être définie aussi comme une période durant laquelle le niveau d'inflation se maintient au-dessus de 50% par mois, selon l'économiste et universitaire américain Philip David Kagan.
Regard sur la gestion économique nationale.
Toujours heureux d'être en votre compagnie avec notre consultant, M. Faustin Onozon, expert des questions en tout cas économiques et en intelligence économique. Justement, il est avec nous pour nous parler de la situation de l'économie mondiale. Oui, c'est une économie qui mérite d'être observée. Ce qui se passe à l'extérieur réagit sur nous. Et il est important de temps en temps de voir comment cette économie mondiale avance. Justement, il est avec nous pour nous parler de cette situation. M. Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour, M. Jean-Claude.
Alors, le monde aujourd'hui, si on vous posait la question tout de go, comment le monde économique se porte de manière globale?
Oui, et merci, M. Jean-Claude. Là, vous êtes en train de mettre l'accent sur la croissance mondiale. Et cette croissance mondiale devrait passer logiquement de 3,5% en 2022 à 3% en 2023 et en 2024. Mm-hmm. En 2024, elle devait marquer le pas. C'est pour dire que l'économie mondiale n'est pas au beau fixe. Voilà, mm-hmm. La croissance mondiale baisse pratiquement d'année en année. Et là, quand on est dans une telle situation, cela veut dire tout simplement qu'il faut prendre des dispositions économiques et financières.
Il faut prendre des dispositions. En tout cas, la croissance mondiale est un peu ralentie. Alors justement, les causes de cette situation, on sait, hein, il y a quelques années, on parlait du coronavirus, il y a des variants donc, de cette maladie qui continuent à nous effrayer, hein, continuent aussi à créer des situations de tension. Il y a aussi bien d'autres situations, la guerre ukrainienne, bien de situations dans le monde qui pourraient impacter, selon votre regard, l'économie du monde, c'est cela, M. Onozon?
Oui, bien sûr, mais il faut dire que tout ce dont vous venez de parler, qu'est-ce que l'économie nous a laissé? L'économie nous a laissé une inflation qui a d'abord été galopante. C'est une inflation, je ne dirais pas que nous avons voulu, mais la politique économique et financière que nous avons menée pour vaincre la pandémie, c'était en accord avec les banques centrales. Et ces banques centrales devraient logiquement libérer le crédit et donc baisser les différents taux directeurs. Et c'est ce qu'elles ont fait. Il y a eu donc une injection importante d'argent au niveau de la masse monétaire en circulation. Et cette injonction, à un moment donné, bien entendu, nous a permis d'avoir une relance économique et financière. Et il y a eu la relance de l'investissement. l'investissement, la relance de la consommation, l'argent du sort du commerce extérieur. Et cela a logiquement entraîné une espèce de variation positive de la production nationale. Mais il fallait s'y attendre. En pareille occasion, l'économie prend un coup, c'est l'inflation. Puisqu'il y a une injection importante d'argent dans cette économie, donc c'est l'heure de l'inflation. Et il y a eu cette inflation qui a été, dans un premier temps, galopante. Et on a essayé de la maîtriser en baissant les taux directeurs. Mais toujours est-il qu'elle continue encore.
Et continue encore, justement, hein, les chocs extérieurs qui ont secoué notre économie ont amené, en termes de solutions, à une injection d'argent. En principe, ça devait aller. Mais bon, vous parlez encore d'inflation. Est-ce que, justement, cette énorme injection d'argent dans l'économie mondiale a créé cette situation que vous qualifiez donc d'inflation? Si oui, comment on ressent ça?
Voilà, merci. L'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix. Quand vous allez dans la boutique à côté, vous achetez aujourd'hui une boîte de lait qui coûte peut-être 2000 francs et puis le lendemain, elle va coûter 2300, après 2500. Si ça ne tient qu'à cette boîte de lait seulement, on ne peut pas parler d'inflation. Mais c'est quand tous les prix des différents produits sont concernés, là on dira qu'il y a une augmentation du niveau général des prix. Et vous, en tant que ménage, en tant que consommateur, ça vous appauvrit. Parce que l'argent que vous avez mis de côté pour acheter tel ou tel produit, cet argent ne suffira pas du tout. Et soit vous l'augmentez, soit vous prenez l'argent au niveau de vos économies pour acheter ce que vous achetez avant. Ou alors, vous changez tout simplement votre manière de vivre, de manger, etc., etc. Voilà un peu ce que c'est que l'inflation. Donc, c'est donc l'augmentation au niveau général des prix. Alors, vous posez une question. C'est de savoir pourquoi il y a eu une inflation alors qu'on a mis sur pied une politique économique et financière. Et cette politique économique et financière, l'objectif, c'est de nous enrichir. Pour enrichir quelqu'un, ben, il faut lui donner de l'argent. Lorsque les banques centrales font une injection de fonds au niveau de la masse monétaire en circulation, cette injection de fonds, elle est faite d'une manière artificielle. Habituellement, c'est par le biais des relations financières avec l'étranger. Lorsque vous faites votre commerce, et vous exportez vos marchandises. Et lorsque vous avez fini de faire ces différentes exportations, il va sans dire que vous allez avoir des devises. Et vous, en tant qu'opérateur économique, vous allez faire une cession de vos devises à la banque centrale, quitte à celui qui voudra importer d'utiliser ces devises-là. C'est un peu comme ça. Mais pour le cas d'espèce, il y a eu des difficultés. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, toutes les frontières étaient fermées. Mais il fallait qu'on vive. Il n'y avait plus d'argent. Et il fallait faire cette injonction de fonds dans l'économie pour pouvoir mettre sur pied ce qu'on appelle la relance économique et financière.
Alors, comme quoi, trop d'argent aussi, c'est pas bon pour l'économie.
Oui, il faut le faire d'une manière optimale. C'est-à-dire, il faut donner juste ce qu'on doit donner. Il ne faut pas donner en dessous, il ne faut pas donner au-dessus. C'est ce qu'on appelle une gestion optimale. Voilà. Donc, pour le cas d'espèce, on a mis beaucoup d'argent dans l'économie. Et vous vous souvenez que on n'avait plus de possibilités, j'allais dire économiques et financières. Et les entreprises ne bougeaient plus, les opérateurs économiques, personne ne sortait du pays. Donc à pareille occasion, la croissance économique et financière prend tout à fait un coup. C'est ce qui nous était arrivé. Donc la Banque centrale est venue au secours de l'économie et elle a injecté ses fonds. Ça a permis à l'État de mettre sur pied des bons et des obligations du Trésor. Et ça lui a donc permis d'avoir beaucoup d'argent pour relancer l'économie à partir du capital. C'est ce qui a été fait. Mais ça, c'est d'une manière artificielle. Mais l'autre côté dont je viens de parler, elle est tout à fait naturelle. Vous exportez, vous créez de la monnaie. Mais on n'a pas exporté, on a créé de la monnaie. Mais il fallait s'y attendre.
Alors, il fallait s'y attendre. Le constat, c'est que, comme vous l'avez dit, au niveau de l'économie mondiale, il y a donc une inflation. Vous avez donné même des chiffres, justement, pour étayer ce que vous dites, pour parler du cas ivoirien. Bon, on entend des voix, nous constatons, si nous sommes des citoyens, que cette inflation se ressent à différents niveaux, surtout avec des denrées de grande consommation. Le gouvernement vient de prendre même une mesure, un arrêté interministériel pour essayer de juguler donc la hausse des prix du riz. Au niveau mondial déjà même, il semble qu'il y a une hausse. Ce sont les conséquences perceptibles de cette inflation-là qu'on ressent déjà au niveau mondial ou au niveau même national, M. Onozon?
Oui, au niveau national, vous savez, nous n'avons pas une politique qui nous est propre. Notre politique provient de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, c'est dans le cadre de la politique menée par la Banque centrale de nos différents États. Mais il faut dire une chose, c'est que tous les États du monde ont adopté la même attitude économique et financière. C'est-à-dire, on a relancé l'économie en libérant le crédit. Voilà, en permettant aux différents taux directeurs d'être abordables. Mm-hmm. Donc, lorsque vous avez le crédit en face de vous, c'est que l'argent a été libéré. Donc, l'économie a été libérée. Tous les opérateurs comme les ménages, ben, chacun peut faire des opérations financières. Mm-hmm. Et c'est ce qui a été fait. Mais à un moment donné, quand il y a l'inflation, il faut faire ce qu'on appelle un resserrement monétaire. Mm-hmm. Il faut resserrer les taux.
Et qui consiste à faire quoi ?
On avait fait une politique des taux. Et au départ, le crédit était très cher. Qu'est-ce qu'on fait en pareille situation ? Il faut faire en sorte que le crédit ne soit plus cher. Et dès lors où il n'est pas cher, c'est que les taux deviennent abordables. Et donc, quand il y a des difficultés en matière de gestion de la politique économique et financière, on relève tout simplement les taux. C'est ce qui a été fait.
C'est ce qui a été fait. Alors justement, le monde, comme vous l'avez dit, connaît cette phase d'inflation. Justement, quand il y a une telle situation, quels sont les mécanismes possibles pour un pays, justement pour une économie, d'essayer de se rélever?
Oui, d'abord, la première chose qu'il faut faire en pareille situation, lorsque vous constatez que vous êtes en face d'une inflation galopante et que cette inflation est tout simplement due à la politique économique et financière que vous avez menée par le passé. Pour le cas d'espèce, c'est une politique qui a été menée dans le cadre de la pandémie. Et il fallait, comme je le disais tantôt, permettre à l'économie d'être beaucoup plus cohérente. Donc il fallait jouer sur les taux directeurs. Et c'est ce qui a été fait. Et donc on a baissé les taux directeurs, ce qui a permis aux gens, aux opérateurs économiques d'aller sur le marché, d'avoir les fonds qu'il faut pour pouvoir développer les activités économiques et financières. Et lorsqu'on constate qu'il y a trop d'injections et que cela entraîne une hausse du niveau général des prix, ben, on relève les taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt sont relevés, ben, on court beaucoup plus vers l'épargne, oui, en lieu et place du crédit. Ce qu'on fait, c'est ce que le monde a fait actuellement. Mm-hmm. Et lorsqu'on constate que cela ne marche pas, mais on va de taux en taux, on ne fait que relever. Le problème fondamental de ces taux, c'est que ça a aussi un impact négatif sur la gestion optimale de l'économie. Mm-hmm. Parce que lorsque le crédit devient un peu plus cher, c'est qu'on ne peut plus faire d'investissement. Mais les premiers investissements qu'on avait faits nous ont permis de tenir jusque-là. Et actuellement, j'estime que c'est l'unique voie par laquelle il faut passer pour pouvoir
relever
gérer
les
mieux.
Taux.
Ouais, tout à fait.
Relever les taux. Ah bon, justement, c'est l'avis donc de M. Onozon, qui, je rappelle, est donc expert en intelligence économique. Il est économiste, donc. Il nous parlait de comment se porte l'économie mondiale. On va s'arrêter là. On reviendra justement sur ce sujet pour décortiquer d'autres aspects de comment se porte le monde. Merci à vous, M. Onozon.
Je vous en prie, M. Koumi.
Tendance de la bourse.
À mes auditeurs, merci de votre fidélité. Si vous nous suivez dans le cadre de cette émission, vous avez l'occasion chaque fois d'écouter M. Kouabris, qui est notre consultant sur les questions boursières. Aujourd'hui encore, nous revenons sur la titrisation donc, des créances. Et il y a une banque, notamment, qui a utilisé cette opération-là. On a décidé de décortiquer un peu cette approche-là avec M. Kouao. M. Kouao, bonjour.
Bonjour, M. Koumi. Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, on revient à notre sujet. La semaine passée, nous parlions de cette opération de titrisation des créances. NCA notamment a utilisé cette opération. Vous avez expliqué qu'est-ce qui amène une entreprise à choisir donc cette opération. Pour le cas de NCA, il y a certaines obligations en termes réglementaires et donc à la recherche de ressources. On peut vendre à d'autres personnes nos créances. Vous avez parlé d'un fonds commun qui a racheté en principe ces créances. Alors, ce fonds commun, c'est quoi? Expliquez-nous un peu son rôle justement dans ce rachat et puis les conséquences.
Bon, déjà, au départ, il y a NCA qui était créancier sur un ensemble de clients. Donc, il détenait des créances et les clients ont des dettes. NCA sort ses créances, bon, une partie, et les revend au fonds commun de titrisation. Donc, au lieu de devoir à NCA Bank les propriétaires en griffe des crédits sélectionnés là, ils doivent maintenant au fonds commun de titrisation. Je crois qu'ils sont 1000 et quelques, mais ils ont donné les montants. Donc, tel nombre de crédits est moins de 5 millions, ainsi de suite, jusqu'à des crédits de plus de 100 millions. Donc, ils ont présenté la structure de tous les crédits qu'ils ont utilisés. Donc, au début, ces personnes, ces entités doivent à NCA. Deuxième partie de la procédure, ces personnes ou entités doivent maintenant au fonds commun de titrisation. Le fonds commun de titrisation, pour obtenir ces créances-là, doit les racheter à NCA. Donc, c'est le fonds commun de titrisation qui a levé les fonds fonds sur le marché financier. Donc quand on dit NCA lève les fonds, en fait c'est pas tout à fait correct. C'est le fonds commun de trésorisation qui s'appelle NCA qui a levé les fonds. Peut-être la difficulté c'est qu'ils ont donné le même nom aux deux, donc ça va faciliter la compréhension. Mais c'est le fonds commun de trésorisation qui a levé les fonds sur les marchés financiers, 40 milliards, qui les a donnés à NCA Bank pour acheter le portefeuille de crédit. Donc ce qui se passe c'est que le troisième groupe, les investisseurs, sont justement créanciers du fonds commun de titrisation et non d'NCA. C'est le fonds commun de titrisation qui leur doit. Le fonds commun de titrisation leur rembourse les fonds communs à travers le recouvrement des créances qu'ils ont ainsi collectées. Pour cela, ils ont besoin d'un agent de recouvrement. Comme je dis, tout ça, ça n'a pas facilité la compréhension. Ils ont pris comme agent de recouvrement NCA Bank. Bon, donc ça fait que NCA revient souvent dans la présentation de l'opération. Pourtant, NCA n'est plus lié juridiquement à ses créanciers.
Revenons un peu à ces acteurs. Le fonds commun de titrisation, c'est une structure de la BRVM ou qui est créée justement pour cette opération?
C'est une structure qui est créée pour cette opération-là. Il y a même un commissariat au compte qui lui est affecté, donc il va rendre compte progressivement de sa santé. Donc pour pouvoir voir justement est-ce que l'entité est toujours solvable, est toujours capable de faire face à ça. La BRVM n'est pas liée à ça. La BRVM, c'est juste en fait une administration qui crée un cadre dans lequel des opérations de marché ont lieu, mais n'est pas juridiquement engagée sur la qualité des titres qui sont émis, de sorte qu'on puisse lui dire non, comme c'est chez toi qu'on achète un titre qui a contre-performé, tu nous dois quelque chose. La BRVM n'est pas garante de la qualité des actifs.
Quels sont les avantages pour les investisseurs qui viennent acheter, justement, par le biais de ce fonds commun de titrisation, les titres que propose, disons, cette structure?
Déjà, il faut savoir que pour un investisseur, l'intérêt d'aller chez un marché financier, c'est de mieux rentabiliser une épargne. Donc, c'est de comparer le taux de cette épargne-là au taux de placement classique qu'il aurait eu. NCA a proposé, je crois, 7%. Le taux d'épargne classique à NCA Bank, ça c'est un très bon cas. Donc, le fonds commun de titrisation d'NCA propose 7%. La banque NCA, en tant que banque, propose au grand public 3,5%, ainsi que toutes les autres banques. Donc, en tant que client, vous apprenez que une entité créée par NCA pour les besoins de tout ce qu'on a expliqué va vous servir 7% là à peu près, contre 3,5% si vous êtes simplement client. Déjà, vous voyez que vous êtes un rapport du simple au double déjà. Maintenant, il y a aussi le fait de pouvoir récupérer sa liquidité plus vite. Souvent, quand on parle de cette opération, on dit oui, mais le taux est semblable au taux des obligations d'État, 6,90. Donc, pourquoi prendre un risque avec une entité privée alors que l'État propose un taux analogue? Il faut savoir que les remboursements d'État sont des remboursements annuel. Donc déjà, NCA a prévu un remboursement trimestriel. Ça permet à la personne de récupérer son capital plus vite que d'attendre chaque année pour un amortissement du capital. Donc, je dirais meilleur taux par rapport au support du placement classique et meilleure liquidité par rapport au support obligataire classique.
Ça, c'est pour l'avantage des investisseurs. Mais quelles sont les conséquences éventuelles de cette opération par ces investisseurs? Mais aujourd'hui, quelles sont éventuellement les conséquences ou les risques éventuels?
Bon, en termes de conséquences, c'est conséquences pour qui?
Conséquences, c'est déjà pour l'investisseur.
Comme je l'ai dit, le surdimensionnement, les crédits de secours et puis la ligne de liquidité sont les mécanismes mis en place par NCA pour qu'au final, les fonds soient mobilisés. On parle quand même de 40 milliards et en face 63 voire 65 milliards de ressources. Donc, on se dit que même s'il doit avoir des défauts, même si les défauts sont de 10% par miracle, parce que j'ai interrogé le DG là-dessus, il a donné le taux de différence initial des crédits d'NCA. Donc, quand c'est moins de 10%, c'est 5%, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est ce que NCA a l'habitude de croiser. Vous savez que nos banquiers, quand même, ils sont très prudents de la sélection des crédits. Donc, ils ont plutôt des crédits performants. Mais le taux de différence, il est de 5%. Là, on parle d'un surdimensionnement plus le crédit de secours plus la liquidité qui nous mène dans un rapport quasiment de 50%. Donc, si vraiment il y a des défauts, il faut qu'ils soient quasiment sur la moitié du portefeuille pour qu'on ait un risque de ne pas payer le capital des gens. Maintenant, après, ça reste une opération de marché. Donc, moi, je ne vous dirai pas que c'est sûr à 100%. Personne ne vous le dira. C'est une opération de marché. Chaque fois qu'un investisseur s'engage sur une opération de marché, il doit être conscient des conséquences éventuelles. Mais vu qu'il s'agit d'une obligation, donc les gens s'obligent à rembourser le capital et les intérêts. Donc, même s'il y a toutes sortes de problèmes, ne serait-ce que pour le nom, peut-être qu'ils vont venir au secours de leur fonds commun pour pouvoir être capable de revenir dans 2-3 ans. Sinon, si une fois tu as levé les fonds, ça s'est mal passé, mais tu es blacklisté. Surtout sur notre marché de gens qui ne connaissent pas l'activité, qui ont fait confiance pour placer 40 milliards, si tu ne reviens pas rendre leur argent. Tu lèves plus de fonds.
En tout cas, il faut s'habituer à cette opération, à la titrisation donc, des créances. C'est une opération qui a été choisie par NCA Bank aussi. Et c'est une manière pour nous aussi d'attirer votre attention quant à une possibilité d'investissement. Voilà, à travers donc, ces fonds communs de placement aussi. Monsieur Kouaou, merci infiniment pour toutes ces informations que vous nous avez communiquées.
Merci Monsieur Koumi, merci à tous les auditeurs de la radio.
Voilà mes auditeurs, c'est terminé en ce qui concerne les tendances de la bourse. On se retrouve avec beaucoup de plaisir avec Monsieur Kouaou encore pour d'autres sujets. Allez, portez-vous bien, au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.